France Inter. Le journal avec vous, Éric Delvaux, bonsoir.
Bonsoir Mathilde et bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, la finale de l'Eurovision à 2h de la cérémonie. La France derrière Louane. Nous serons en direct de Bâle en Suisse avec notre envoyé spécial Julien Baldacchino. Nous irons à Montreuil, près de Paris, là où a grandi le rappeur Werenoi, dont on a appris la mort en fin de matinée. Il était le plus grand vendeur d'albums en France. À la une également, l'appel de plusieurs capitales européennes qui demandent à Israël de stopper ses préparatifs d'invasion terrestre d'envergure dans la bande de Gaza. Et puis nous irons en Roumanie où le candidat ultranationaliste fan de Donald Trump est en tête pour le second tour de la présidentielle demain. Enfin, nous ferons étape à Cannes pour la présentation aujourd'hui du film I Love Pérou. Le temps de demain, Céline Dacosta, ce sera un peu plus ensoleillé qu'aujourd'hui.
Oui, et qui dit ciel dégagé, dit matinée encore un peu fraîche par endroits.
Et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes.
Concentre.
Nous partons donc à Bâle, en Suisse, finale de l'Eurovision, début de ce géant télécrochet dans moins de 2h, et puis vers 23h10, Louane défendra les chances de la France avec sa chanson « Hommage à sa maman ». En 2021, la France a terminé deuxième avec Barbara Pravi. L'an dernier, quatrième place avec Slimane. Julien Baldacchino, vous êtes en direct de Bâle. Bonsoir.
Bonsoir.
Et voilà donc que les Français sur place entrevoient un alignement des planètes pour Louane.
Oui, il y a vraiment un engouement qui monte en même temps que la cote de Louane auprès des bookmakers pour qui elle est troisième favorite. Les fans sur place sont en ébullition. Florence est arrivée ce matin pour la finale.
On le voit dans la ville et on l'entend autour de nous. On essaye de pas s'emballer parce qu'on sait que ça peut ne pas être la réalité. C'est quelque chose qu'on n'a jamais touché du doigt et là, ça commence à devenir peut-être un rêve qui pourrait se réaliser.
Et en coulisses, la chef de la délégation française, Alexandra Redamiel, a aussi envie d'y croire.
On a l'impression qu'il y a plein de planètes qui s'alignent. C'est assez étonnant. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a plein de signes à chaque moment, mais il y a des choses complètement dingues qui s'alignent. Après, ça ne prévaut de rien.
Oui, car pour compliquer les choses, Louane passe juste derrière l'un de ses principaux concurrents, le grand favori suédois.
Et puis un autre sujet enflamme la communauté de l'Eurovision, Julien, c'est l'éventuelle présence ce soir de Céline Dion, 37 ans après sa victoire à ce même concours de chant.
Oui, là aussi, les fans sont aux aguets, mais quand on lui pose la question, le directeur de l'Eurovision, Martin Green, il répond par une pirouette.
Je crois que c'est vous qui l'avez gardé à la Tour Eiffel depuis cet été, non? À vrai dire, moi-même, je ne sais pas, mais je crois que tout ça, c'est une belle histoire. Vous verrez bien ce qui arrivera ce soir.
Donc pas de confirmation, mais pas de démenti non plus face aux rumeurs qui, elles, sont de plus en plus insistantes.
Julien Baldacchino, en direct de Bâle, l'Eurovision, début des festivités à partir de 21h. Son vrai nom était Jérémy Bana Owana, mais les amateurs de rap le connaissaient sous le pseudonyme Werenoi, la version jeune et urbaine de Salut mon pote. Werenoi, donc, est mort aujourd'hui à Paris. Il avait 31 ans. Les conditions de son décès restent encore assez floues. Werenoi aimait la discrétion. Réaction cet après-midi à Montreuil, près de Paris, là où Werenoi avait grandi. Reportage de Sarah Mansoura.
Sur la place de la mairie, une heure après la confirmation de sa mort, tous les jeunes interrogés sont déjà au courant. Isabella et Rania, la quinzaine, font défiler des dizaines de posts.
Sur les réseaux sociaux, je crois que c'était Instagram ou quoi.
Tout le monde l'écoute.
On n'y croyait pas, sur le coup.
C'est quand même un grand rappeur du rap français.
Werenoi fait surtout la fierté de Montreuil. Diego, 22 ans, connaît tous ses titres.
Bah oui, c'est quelqu'un de Montreuil, c'est quelqu'un de la ville. Numéro 1 des rappeurs français sur l'année 2024, c'est une fierté. C'est une très triste nouvelle, surtout pour moi que j'écoute ses musiques. Il est venu de nulle part, personne ne le connaissait. Et en 2-3 ans, il a complètement explosé. Toute la France l'écoute. Même tu vas dans d'autres pays, en boîte de nuit, tu peux écouter ses musiques.
À Montreuil, ses fans saluent un artiste devenu majeur, plus gros vendeur de disques en 2024, resté attaché à la ville où il a grandi. Adem et Ilan, la vingtaine, ne tarissent pas d'éloges.
Il y a un avant et un après, on le ressent, dans la ville en tout cas. Et même entre nous, on le ressent.
Ça nous a fait quelque chose. C'était la grande tête du rap français. En très peu de temps comme ça, avoir autant de certifications dans le rap, pour moi c'est une légende du rap français. Il représentait Montreuil.
Il l'a dit, j'ai mis la lumière sur la ville, j'affirme. je vais pas te demander ton avis. C'est dans un de ses sons.
Mal au cœur, disent-ils, de savoir que Weren One ne fera plus de musique. Le rappeur devait se produire l'an prochain à l'U Arena. Ilan tente de se consoler en se disant qu'il aura au moins eu la chance de le voir en live il y a quelques mois.
Reportage à Montreuil de Sarah Mansoura. Weren One avait remporté il y a quelques jours le prix du meilleur album de l'année lors de la cérémonie dite des Flammes. L'actualité politique, avec le début du vote chez les LR depuis un peu plus d'une heure pour élire leur futur président, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Les deux prétendants seront fixés demain vers 18h, avec en ligne de mire la présidentielle de 2027. 2027, c'est aussi l'échéance que vise Édouard Philippe. Étape pour Édouard Philippe cet après-midi à Marseille pour ce qu'il appelle son troisième congrès interrégional. Cet ex du parti Les Républicains, devenu président de son parti Horizon, s'est présenté donc aujourd'hui comme au-dessus des partis de droite. Il se voit en grand rassembleur du bloc des Républicains démocrates. Laurence Perron, vous êtes à Marseille et vous avez suivi le meeting d'Édouard Philippe. Il a décliné quelques thèmes régaliens, à commencer par celui de la justice.
Une main de fer dans un gant de velours. Le ministre de la fonction publique, Laurent Marcangeli, qu'il connaît très bien, lui voit même une filiation.
Il y a quelque chose de Jacques Chirac en Édouard Philippe, pas forcément seulement la taille, sa manière d'aller à la rencontre des Français.
L'ancien Premier ministre préfère mettre ses pas dans ceux du général de Gaulle.
Le général de Gaulle, lorsque le combat pour la France s'est engagé, a appelé tous les Français qui le souhaitaient à le rejoindre et à se battre. Il n'a jamais fait le tri entre la droite et la gauche.
Et fédérer un bloc républicain-démocrate qui croit que l'immigration est une chance, mais qu'il ne faut pas escamoter le débat.
La France a un problème avec le communautarisme. Et ce que je veux, c'est que demain, ce soit le communautarisme qui est un problème avec la France.
Retour des peines planchers, fin de la double peine, assumer des sanctions de prison courtes dès la première infraction, faire du parquet, pourquoi pas, le bras armé du gouvernement. Pas exactement de quoi séduire à gauche, mais dans le même temps, il s'en prend sans les nommer à ceux qui contestent l'état de droit.
Croyez-moi, les Français ne sont pas dupes de ceux qui font du trumpisme au petit pied en rêvant de ressusciter le bagne du comte de Monte-Cristo à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Voilà pour Laurent Wauquiez, le patron des députés LR. Édouard Philippe sait qu'il aura un espace si Bruno Retailleau l'emporte, celui d'une droite raisonnablement sociale, capable de séduire un bloc central angoissé par la montée de l'extrême droite et une partie de la gauche allergique à Jean-Luc Mélenchon.
Laurence Perron en duplex de Marseille. Gérard Larcher a déposé plainte contre l'eurodéputée insoumise Rima Hassan. Elle l'avait traité sur X de crapule quand le président du Sénat avait douté d'une prochaine reconnaissance par la France d'un État palestinien.
France Inter, Éric Delvaux.
Le Hamas annonce aujourd'hui l'ouverture à Doha au Qatar d'un nouveau cycle de négociations indirectes avec Israël. Mais comment parler de paix alors qu'Israël prépare une nouvelle opération terrestre dans Gaza? Ces dernières heures, les frappes israéliennes se sont intensifiées. Les mouvements de population sont plus importants dans l'enclave. Gaza reste inaccessible aux journalistes internationaux et c'est donc de Paris qu'Étienne Monin a réalisé son reportage à distance donc.
Sur la vidéo, on voit les flammes et l'intensité de la frappe qui vise les abords d'un hôpital dans la partie nord de Gaza. La nuit a été particulièrement intense, dit Noureddin, installé dans la ville de Gaza aux premières loges, joint par WhatsApp.
Toute la nuit, on a pu entendre les sons de démolition et des bruits d'artillerie. Cette nuit, c'était sans doute le plus fort qu'on ait entendu.
D'après les chiffres des Nations Unies, autour de 19 000 personnes se sont déplacées la nuit dernière depuis la partie nord. Olga Cherevko travaille pour l'agence humanitaire de l'ONU. Elle parle d'une escalade sur les 48 dernières heures.
Les opérations militaires se sont intensifiées dans Gaza, que ce soit au nord ou au sud. De ce que l'on sait, les tanks ont commencé à avancer plus profondément dans la partie nord hier.
L'armée est soupçonnée de mettre en pratique un plan annoncé début mai qui consiste à déplacer à nouveau la population vers le sud pour élargir son contrôle dans l'enclave. Mais les habitants restent hésitants, explique Ziad Medouk depuis la ville de Gaza.
Il faut attendre les jours qui viennent pour voir est-ce que l'occupation va envahit toute la ville de Gaza où il va rester sur les frontières. Les gens, je pense maintenant, ils sont en train de réfléchir mille fois avant d'avoir un nouveau déplacement.
Ces derniers jours, les bilans se sont alourdis et l'aide humanitaire n'entre toujours pas dans l'enclave.
Étienne Monin. Et cet après-midi à Paris, plusieurs milliers de personnes ont manifesté pour dénoncer la situation dans la bande de Gaza. Et comme plusieurs capitales européennes dans la journée, Berlin, à son tour, dit ce soir sa préoccupation de voir Israël Israël se préparait à une éventuelle offensive terrestre d'envergure dans la bande de Gaza. Demain sera une journée d'élection dans 3 pays de l'Union européenne, en Pologne, au Portugal et en Roumanie. 3 élections distinctes, mais qui pourraient chacune confirmer la lame de fond en Europe des candidats anti-système et d'extrême droite. Exemple en Roumanie, pour le second tour de la présidentielle demain, l'ultranationaliste Georges Simion se revendique du trumpisme. Il est arrivé largement en tête au premier tour. Bonsoir Virginie Pironon.
Bonsoir Eric.
Vous êtes en direct de Bucarest. Alors, après la présidentielle avortée il y a quelques mois en Roumanie pour cause de soupçons d'ingérence, cette nouvelle élection présidentielle a subi encore une fois l'influence des réseaux sociaux.
Oui, à tel point qu'une étude publiée ces derniers jours en Roumanie montre que les contenus d'extrême droite ont été diffusés 3 fois plus que les autres. L'atmosphère ce soir à Bucarest est électrique, c'est ce que nous a confié Florentina, actrice croisée tout à l'heure dans les rues de la capitale. Elle votera demain pour Nicou Jordan, le candidat pro-européen. Nous aussi, sur les réseaux sociaux, nous avons des discussions virulentes à propos de la politique. On se rend compte que sur les réseaux sociaux, on discute avec des gens que l'on ne voit pas. Et effectivement, on s'énerve. Et tout devient conflictuel. Le candidat d'extrême droite, Georges Simion, a annoncé cet après-midi avoir fermé pour la journée ses comptes Facebook et TikTok qui auraient pu, selon lui, être la cible d'attaque. Madalina Voina travaille pour Expert Forum à Bucarest. C'est un groupe de réflexion qui travaille sur la démocratie et le rôle des réseaux sociaux. Oui, tout est en train de changer dans les pays de l'Union européenne. Toutes les élections se font sur les réseaux sociaux qui les disséminent, bien plus que via les autres moyens d'information. Bien sûr, la télévision compte, la radio aussi, mais nous avons désormais ce nouveau terrain non transparent et très difficile à réguler. Selon des analystes, le pro-européen Nicou Jordan a été la cible ces derniers jours d'une intense campagne de désinformation. À la veille du scrutin, les deux candidats sont au coude à coude.
Virginie Pironon en direct de Bucarest avec les moyens techniques de Michael Simon. Donald Trump s'entretiendra lundi avec Vladimir Poutine sur la guerre en Ukraine et puis, dans la même journée, a-t-il dit, il s'entretiendra avec Volodymyr Zelensky. Retenez encore aux États-Unis que dans le centre du pays, une série de tornades a tué au moins 21 personnes dans le Kentucky, également dans le Missouri. Je reviens en France avec l'actualité à l'Assemblée nationale. Les députés viennent à l'instant d'approuver la création d'un droit à l'aide à mourir en rétablissant le principe de l'auto-administration de la substance létale. Le sport avec le boxeur Tony Yoka qui retrouvera ce soir le public français. Il va affronter vers 23h à l'Adidas Arena de Paris le poids lourd russe Arslan Yaliev. Et donc voilà le français, champion olympique 2016, de retour donc après une longue absence, François Ventéjou.
On avait quitté Tony Yoka en décembre 2023 après une 3e défaite d'affilée contre un adversaire pourtant à sa portée.
Je pense que je me suis perdu sur ces dernières défaites et pas mal de choses qui n'ont pas été dans ma vie personnelle et ça s'est retransmis sur la boxe et il a fallu que je me retrouve. Donc là, ces 18 mois, ils ont été là pour ça.
Avec plusieurs changements majeurs, d'abord il est parti des États-Unis pour revenir s'entraîner en Europe, à Londres, afin d'être plus proche de sa famille. Physiquement aussi, Tony Yoka a pris du muscle. Il pèse désormais plus de 117 kilos. C'est 12 de plus qu'il y a un an et demi. Aujourd'hui, il se dit heureux dans sa vie et dans son sport.
Je me suis retrouvé pendant 18 mois mentalement avec ma famille, dans mon travail. Je suis heureux à nouveau de faire ce sport. J'ai des ambitions et voilà, j'ai vraiment hâte de retrouver mon public et de gagner de la meilleure des manières possibles, de me faire plaisir tout simplement.
Pour son 15e et dernier combat de son contrat signé avec Canal+, après les JO de 2016, il affronte Aslan Yaliev, 28 ans, un boxeur russe invaincu en 16 duels.
Voilà à présent un acteur multicarte dont l'ascension a été fulgurante, Raphaël Quenard. Il présentait cet après-midi à Cannes son docu-fiction intitulé « I love Pérou », tourné avec son acolyte Hugo David. William Delesseux, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux à Cannes, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Raphaël Quenard est donc venu présenter son film cet après-midi avec un bien beau casting.
Ah oui, avec déjà la mascotte du film, un condor géant venu.
devant le public de la salle du Palais des Festivals pour présenter I Love Pérou, François Civil, il y a aussi Michel Hazanavicius, quelques-uns de celles et de ceux qui interviennent dans ce produit entre vrai faux documentaire, buddy movie, c'est assez inclassable. On voit tous ceux qui évoluent autour de Raphaël Quenard.
C'est pas un casting 5 étoiles, c'est un casting Voie Lactée. Ça s'est fait de façon tellement sauvage et sans aucune autorisation que c'était des images qu'on grappillait ça et là et tout ça mis bout à bout. À la fin, on avait plus de 200 heures de rush.
Bah, belle leçon d'humilité.
Bah, belle leçon d'humilité.
Belle leçon d'humilité.
N'importe quoi depuis tout à l'heure.
Belle leçon d'humilité. Belle leçon d'humilité que tu me donnes. J'accepte.
L'acteur est en crise existentielle après sa rupture. Il rêve une nuit d'un condor dont il se met à la recherche en allant au Pérou. Le comédien est filmé par son ami Hugo David qui est aussi le narrateur du film. Et voilà comment le duo a convaincu Thierry Frémaux, le délégué général du festival.
On lui a dit que les frères Lumière l'auraient sélectionné car c'est un film qui a été fait avec deux gars, une caméra et l'amour du cinéma. Il y a l'amitié, il y a la solitude, il y a de la poésie, il y a de la philosophie. Tout ça englué dans de la matière drôlatique.
Raphaël Quenard tourne tout au-delà du second degré. On pouvait redouter l'ego trip d'un acteur. Il n'en est rien. Le film est en lice pour l'œil d'or. C'est le prix du documentaire décerné à Cannes.
I Love Pérou avec William Delesseux en direct de la Croisette avec les moyens techniques de Marie Potier. Le temps.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. Aquiléine, nous, c'est le pied.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Avec des températures qui seront encore assez fraîches demain matin.
Oui, parce que le ciel aura été dégagé durant la nuit, donc les températures vont bien baisser, surtout sur les régions allant de l'Auvergne au nord-est et sur les Hauts-de-France, avec là une moyenne de 4 à 9 degrés, 7 à 14 degrés pour les autres du nord au sud. Les maximales seront en hausse, notamment sur les deux tiers sud du pays, avec 22 à 28 degrés en moyenne. On attend 16 à 23 degrés plus au nord, avec les températures les plus basses près de la Manche.
Et des nuages le matin au nord de la Seine.
Oui, un petit peu comme ce matin, un nuage encore une fois assez épais avec un ciel voilé également pour un quart sud-ouest. Dans l'après-midi, ce voile nuageux s'étendra des Pays de la Loire au sud-est, mais ça ne gâchera pas l'impression de beau temps. Ailleurs, le ciel sera variable entre nuages et éclaircies. On aura juste de petites averses sur les Pyrénées et les Alpes.
Les prévisions de Céline Dacosta.